Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma. Avec Charlotte Lipinska de Vanity Fair et avec les tyrannosaures de la critique, j'ai nommé Pierre Murat de Télérama, Pierrot, Eric Neuhoff du Figaro et avec Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession pour parler, vous l'avez compris, de Jurassic World, mais également des films de Jafar Panahi, de Jean-Pierre Méris, d'Eliane Filière, des frères Vittorio et Paolo Taviani, du voyage du Fakir de Ken Scott et à la demande de Xavier du Book Club de Bill Holderman. Dans le courrier de la semaine, Jérôme Duvivier juge que Asghar Farhadi a perdu la force principale de son cinéma. La mise en scène d'un puissant dilemme moral ne reste qu'un honnête thriller bien mené. Farhadi ne devrait pas quitter l'Iran ni employer des stars. Au contraire, Patrice Piche de Toulouse réplique à Jean-Marc cher monsieur Lalanne, si toutes les telenovelas, c'est comme ça qu'il avait parlé du film, étaient aussi passionnantes qu'Everybody Knows d'Asghar Farhadi, on adorerait les telenovelas et on louerait la télévision de nous prendre pour des gens intelligents. Non, il faut arrêter avec ces critiques d'attitude. C'est un film, le film de Farhadi, excellemment mise en scène avec une maîtrise parfaite du tempo et la distillation des indices. En revanche, le même Patrice Piche est triste de voir Terry Gilliam, l'auteur de Brasil, louper à ce point le film qu'il avait tant envie de réaliser. 30 ans de gestation pour un film morné. L'homme qui tue à Don Quichotte, c'est Gilliam, totalement losté in la mancha. Bref, c'est sans aucun intérêt. Même sentiment de François Zaccari, qui a 23 ans, qui habite Strasbourg, et qui voudrait remercier le producteur Paolo Branco pour avoir tout fait pour nous protéger de cette daube qu'est Don Quichotte. En voulant bloquer sa sortie, il voulait nous empêcher d'avoir la nausée face à cette bouillie visuelle d'une laideur inouïe. Au contraire, un auditeur qui signe Don Andreas de Paris et qui s'adresse au moulin à vent de la critique défend Gilliam et considère son Don Quichotte comme l'œuvre d'une vie dont le personnage ressemble, ça c'est vrai, plus que jamais à son réalisateur. Bon, sinon, avis partagé à propos du Hangar de Stéphane Brisé, pour Madame Bressa, c'est un film totalement manichéen, où seule demeure la figure christique de Saint Lindon, fatigant et fatigué. Pour Gilbert Maire, qui a travaillé 20 ans dans l'industrie, ce film est une télé-réalité qui ne montre que du superficiel, c'est une vision hors sol, au contraire. Pierre Durosel de Marcilly considère que Stéphane Brisé est un grand cinéaste qui sait allier une vision personnelle du monde riche et humaniste à une invention formelle toujours renouvelée et parfaitement maîtrisée. Et encore plus lyrique, que Joy Draveil nous dit « Bravo mon masque pour tes éloges de Hangar. Non, Stéphane Brisé ne refait pas le même film comme je l'ai lu et entendu. C'est au contraire le remarquable et idéal complément à la loi du marché. » Enfin, un témoignage édifiant de Marie qui ne veut pas donner son nom, puisqu'il paraît que son copain nous écoute, et qui me dit donc « Cher masque, cela fait un an que je t'écoute, j'ai découvert ton émission grâce au conseil de mon amoureux. Je me délecte des échanges passionnés de tes critiques sur le cinéma. Je ne confonds plus les voix de Michel et de Pierre. J'anticipe les « je suis désolé » de Xavier, les « oh » de Jérôme lorsque ses camarades exagèrent. Mais l'écoute soutenue de vos émissions n'est pas sans effet secondaire. Ma vie Le masque et les films s'entremêlent et ce qui devait arriver arriva la nuit dernière, comme dans Camille Redouble. Je suis retourné au lycée avec mes anciens camarades et professeurs, tout en conservant mon apparence d'adulte. Dans ce rêve, je me suis promené autour du lycée en compagnie d'Éric Nohoff. Nous avions à la fois vu sur Versailles, ce qui nous a permis de dire du mal du film de Sofia Coppola, et sur une piscine dont l'architecture pharaonique évoquait le Cléopâtre de Mankiewicz. Juste avant que je me réveille, il m'a même murmuré, donc Éric, à l'oreille de sa belle voix grave, faut pas exagérer, hein, me donnant rendez-vous dans le monde réel, comme Kate Winslet le fait avec Jim Carrey dans Eternal Sunshine. Alors, Marie me demande si elle doit consulter ou simplement espacer l'écoute de vos émissions. Consulter, ça me paraît pas utile. Ou alors peut-être aller au service de neurologie de Raymond Garcin à Sainte-Anne. Espacer l'écoute des émissions, c'est dommage. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, Marie, c'est que peut-être que de sa belle voix grave, Éric vous donne un conseil.
Ben c'est drôle parce que je fais un peu le même genre de rêve de façon récurrente.
Avec Marie ?
Sans Marie. Je me retrouve en classe, en première, à l'âge que j'ai aujourd'hui, au tableau, en cours de maths, et on me demande de résoudre des équations du second degré.
Mais c'est un scénario formidable.
Ah, mais c'est un bon scénario, là.
Donc, sommes des jumeaux astro avec Marie.
Bon, ben écoute, je vais te laisser quand même son mail, on ne sait jamais.
Mais il faut qu'elle en parle à son amoureux, voilà, quand même, et puis Marie.
Je ne veux pas qu'il y ait de drame dans...
Ben oui, c'est coup, ça,
tu
quand même.
Tu pourras lui répondre. Allez, on commence avec Jurassic World, Fallen Kingdom, comprenez le royaume déchu, film en 3D de Juan Antonio Bayona, nouveau venu chez les dinos, et le cinquième quand même de la série tirée des romans de Michael Crichton, et commencé pour les deux premiers par Spielberg soi-même, lequel produit ce film co-scénarisé par Colin Trevorrow, qui lui avait réalisé le quatrième J'arrête là. Avec Chris Pratt en Owen, bien sûr, et Bryce Dallas Howard en clair, qui était du quatrième Jurassic, si vous me suivez pas, c'est pas grave, mais aussi Jeff Goldblum, Billy Wong, James Cromwell, Geraldine Chaplin, Toby Jones, et cette fois pour Owen et Claire, il s'agit, et ça c'est très important, de sauver et de transférer Xavier et les dinosaures en liberté sur l'île Nublar, où ils ont, je te le rappelle, détruit l'hôtel de luxe et le parc à thème alors que le volcan se réveille, mais Owen et Claire comprennent que Lockwood, c'est James Cromwell, organise le transfert des dinos en secret vers l'Angleterre pour les mettre, ce qui est vraiment dégueulasse, aux enchères. Sans compter l'apparition d'un nouvel hybride que je ne connaissais pas, qui est l'Indoraptor, qui est assez intéressant. Xavier ?
Alors, moi, j'y allais avec une certaine confiance.
Est-ce que tu y allais avec tes parents ?
Non, je leur ai épargné ça quand même. Les deux raisons qui étayaient cette confiance, un peu naïf, un peu candide, pour une fois, ça m'arrive, c'est d'abord une personnalité du réalisateur, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, Juan Antonio Bayona. Il avait réalisé un très beau Quelques minutes après minuit qui était absolument magnifique. Et je me disais, il va peut-être apporter une touche plus personnelle. Il vient du cinéma fantastique espagnol. Ils ont une spécificité.
L'Orphelinat,
voilà, absolument, avec lequel on l'avait découvert. Bon, en même temps, je suis vraiment bête à pleurer. C'est un film américain, donc qu'importe la personnalité du réalisateur. Elle est évidemment massacrée, écrasée d'un revers de queue de Brontosaure par les exigences des producteurs, dont Monsieur Spielberg. Donc voilà, la personnalité de Bayona, elle est proche du zéro. Puis on m'avait dit, non, mais c'est pas du tout comme d'habitude, ils vont sauver des animaux, c'est un film très altruiste.
C'est un peu différent des précédents, c'est vrai.
Pendant 20 minutes, oui. Si, alors bon, effectivement, alors l'éruption du volcan, il faut sauver les animaux, on va en sauver que 11, les autres vont être massacrés. Il y a une grande commission d'État pour savoir si oui, on les laisse être ensevelis par la lave, ou sinon on les sauve. Alors on a un petit geste d'humanité, et puis bon... Au bout de 25 minutes, une fois qu'on a quitté l'île avec une scène qui est assez stupéfiante, assez impressionnante, il y a un pauvre petit dinosaure tout seul qui est en train d'être avalé par la lave qui coule. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Malheureusement, Chris Pratt est sauvé, donc ça, danger collatéral, hein, il se sauve. Et on se retrouve comme d'habitude dans Jurassic World. Des cons qui vont encore cloner des dinosaures, qui vont encore les écraser. Donc c'est quand même toujours un peu la même chose.
Mais il faut bien qu'il y a un cinquième et un sixième.
Mais qu'ils arrêtent de cloner ces œufs de dinosaures, mon sang! On peut pas foutre la paix à l'ADN des dinosaures. Non, mais c'est quand même, ça fait 4 épisodes qu'ils sont massacrés par des dinosaures qu'ils ont clonés. Ils peuvent pas regarder les autres épisodes dans l'avion comme tout le monde, non? Enfin, c'est quand même terrible. Alors, ils sont là. Alors, là, c'est des très, très méchants, hein, parce que, attention, on va cloner. Ça
fait venir
des armes de guerre. Alors, ils sont petits, ils sont nains, ils sont moches, ils sont russes. Enfin, vous l'imaginez un tout petit peu quand même. On charge la mule. Donc, on va cloner les animaux. Et puis, évidemment, les animaux, voilà. Écarter les grilles de la cage, sortir. Alors, on est content parce que dans l'épisode précédent, il massacrait des pauvres petits enfants qui étaient dans Jurassic Park. s'en foutaient un peu, mais enfin bon. Ça
faisait... J'avais oublié celui d'avant.
Oui, mais tu sais, il y a un moment, les pterodactyles faisaient leur marché comme ça et emportaient des enfants de 4 ans. Enfin, c'était absolument génial. Là, évidemment, c'est plus politiquement correct. Ils vont écraser des méchants russes, serbes, tchétchènes. Enfin, vraiment, tout le monde y passe. Des Chinois. Alors, évidemment, tous les ennemis de l'Amérique sont dans la salle des enchères. Alors,
surtout les Russes, hein. C'est eux qui achètent aux ventes aux enchères les bêtes les plus féroces.
C'est eux qui
ont
plus d'argent, bien sûr, à leur pouvoir sur l'Algérie. Mais on a quand même quelques Chinois et quelques Asiatiques derrière. Et ça vire au jeu de massacre. Bon. Alors, il y a un personnage, peut-être avez-vous compris à quoi il servait, Géraldine Chaplin. Je ne comprends pas du tout. Elle a la chance, elle part avant le massacre. Merde, j'ai vu cacher. Mais je ne sais toujours pas à quoi sert le personnage. Charlotte.
Dis un peu plus sérieusement, je vais essayer après Xavier.
Tout de suite, sérieusement, Jurassic World.
Non, parce que t'es très, très sérieux, mais moi, le gros problème que j'ai eu avec ce film, c'est que je n'ai aucune empathie avec les personnages principaux qui essayent de sauver ces bestioles, parce que quelle idée d'aller sauver ces dinosaures qui vous croquent en moins de deux, qui sont féroces, qui sont méchants.
C'est le principe de la série.
Voilà. Mais donc, ils sont pris dans cette contradiction de sauver leur peau et en même temps de sauver cette espèce, mais ils sont tellement terrifiants, ces animaux, que moi, j'ai qu'une envie, c'est de les laisser dans la cage ou de les laisser sous le volcan, mais surtout pas les sauver.
C'est horrible. Donc c'est, moi, je déteste les guêpes, mais je ne suis pas pour leur éradication.
Alors après, cela dit, le film, sur le côté action et divertissement, le contrat est relativement rempli.
C'est bien fait.
Tout le début du film sur l'île avec l'éruption du volcan est assez spectaculaire. Le film est quand même assez effrayant, terrifiant par moments. Et puis, ça pointe quand même un peu la responsabilité des hommes qui sont absolument incapables de gérer les conséquences de ce qu'ils ont fait et l'impossibilité de dominer la nature. Mais alors maintenant, moi, c'est dinosaures, mais alors vraiment quick, quoi. On arrête, on les clone plus et on arrête d'avoir peur.
On verra tout à l'heure un autre film avec des dinosaures qui est The Book Club, qui est beaucoup moins bien fait.
Oui.
Techniquement, beaucoup moins bien
fait. Qui fait très peur aussi. Qui terrorise.
Pierre. Alors si moi, maintenant c'est moi qui vais défendre un peu ce
mais
type de film.
Mais oui,
c'est
ce que j'ai cru comprendre dans ta manière
non,
de manifester.
Mais non, alors c'est hallucinant quand même que c'est moi qui vais dire que moi, je suis un peu d'accord avec toi qu'on détruit ces dinosaures, je m'en fous.
On n'a vraiment pas envie de les sauver, quoi. Vraiment, il faut les exterminer.
Mais cela dit, par rapport à ce que tu dis, Xavier, je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que bien sûr qu'il est, que le réalisateur est laminé par la production et tout. Bien sûr. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est les trois premiers quarts d'heure, c'est-à-dire où on retrouve tout ce qu'on a vu déjà.
Ah, mais c'est un classique. Il faut bien raconter.
Non, c'est très bien. C'est très spectaculaire et très bien. Mais je trouve que c'est un tout petit peu plus original que d'habitude et de la part de ce réalisateur-là, puisque tous ces reptiles absolument révoltants, répulsifs et tout ce que là, sont importés dans une maison gothique avec une petite fille, là, la fille du grand inventeur de tout ça, dont on se demande exactement ce qu'elle est. Et là, quand même, moi je suis pas un fan absolu de Bayona et de l'orphelinat, mais on retrouve quand même ces thèmes, c'est-à-dire l'enfance, comment se coltine-t-on à l'enfance, la maison gothique, le mystère, et je trouve que dans cette série qui va reprendre, à mon avis, au prochain épisode, exactement ce que vous avez tous dit, c'est-à-dire qu'on s'enlace, je trouve que là, il y a une petite originalité dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans le côté gothique, et qui est dû au réalisateur. Alors, je suis d'accord, il n'a pas pu résister beaucoup, mais quand même, ce qu'il fait me paraît beaucoup plus original que les précédents.
Jurassic sauvé par Pierre et Eric.
Heureusement, les dinosaures sont très bien, mais le problème, c'est qu'apparemment, ils ont bouffé tous les bons acteurs disponibles sur le marché. Parce qu'à l'écran, il y a toute une brochette de ringards, mais absolue. C'est hallucinant. Et on sait qu'il ne va rien leur arriver parce qu'ils sont tellement fat qu'ils n'ont pas de goût et les dinosaures ne vont pas les manger.
C'est pas pire que d'autres.
Chris Pratt, c'est un genre de sous Ben Affleck.
Je te rappelle qu'il est récurrent quand même. Il était dans les précédents.
Mais je n'avais pas vu les précédents. J'avais vu les deux premiers, ceux de Spielberg, je crois. Et de Chris Pratt, mais il a les yeux d'un chat qui fait pipi dans la braise, il est idiot. Il y a la fille de Ron Howard est devenue une rousse.
C'est une image. C'est une image.
Brice Dallas Howard, c'est devenu le sosie de Véronique Jeunesse. Donc à tout moment, on se dit, elle va nous faire de la pub pour le jambon de Diplodocus. Ils sont tellement mauvais que l'apparition de Jeff Goldblum, qui est un acteur calamiteux, est une bouffée d'oxygène. Le petit Obélix s'est mis une moumoute à la Donald Trump, parce que maintenant tous les films américains, même les blockbusters, sont des films contre Trump.
Mais tu demandes pas à des acteurs shakespeariens de jouer ça.
Qui apparaît dans cette maison gothique en croyant qu'elle est Miss Danvers.
Là, on voit qu'elle a besoin d'argent.
Mais tout ça est terrible. Alors, le vieux milliardaire dans son lit, c'est le pauvre fermier de Babe. Et on voit que le type regrette le petit cochon, parce qu'au milieu de toutes ces bestioles affreuses, c'est... Ah non, mais c'est un film... Et là, il n'y a pas de scénario du tout. Et à la fin, évidemment, si. Une suite menace, et c'est pas possible, ça.
Jurassic
World. Ah, la suite menace, pas la suite, elle est déjà écrite.
Elle est déjà là.
Oui, elle a été écrite.
Qui, je vous rappelle en 3D, hein, de Juan Antonio.
Vous avez... en 3D?
Non. Pour une fois, je peux le dire, vous avez perdu votre âme d'enfant. C'est moi qui le dis. Voilà.
Mais de toute façon, je ne sais pas ce qui se passe depuis quelque temps. Je te trouve très bienveillant pour les films.
Enfin, âme d'enfant, t'es connu plus sévère, le film,
c'est vrai.
Peur, hein,
c'est vrai. Oui. Mais ça ne va pas tarder, tu vas voir, je vais revenir en force.
Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public? Non. Très différent, trois visages. Film que l'Iranien Jafar Panahi a signé à résidence dans son pays, n'a pas été autorisé, je vous le rappelle, à venir présenter à Cannes. Pas plus d'ailleurs qu'il n'a pu venir y recevoir le prix du scénario que lui a attribué le jury de Cate Blanchett. Tout commence par une vidéo que la comédienne Behnaz Jafari reçoit sur son smartphone. Une jeune fille qui rêve de faire ce métier l'apprend directement à partie, lui reproche de n'avoir jamais répondu à ses appels et finalement, fin de la vidéo, se prend par désespoir. Traumatisée, ça il faut la comprendre, Behnaz Jafari veut savoir si l'adolescente s'est vraiment suicidée ou si c'est une mise en scène macabre. Et elle localise le village d'où la victime est originaire, dans une région très montagneuse du nord-ouest de l'Iran. Et elle part avec Jafar Panahi, avec le réalisateur, en lui demandant de l'y conduire. Et c'est le début d'un road movie en 4x4. Qui empruntent une route parfois drôle d'ailleurs et de plus en plus sinueuse. Ils arrivent dans un village où les actrices sont considérées comme des femmes de mauvaise vie et le cinéma comme l'art de manipuler les foules. Le troisième visage du titre, c'est celui d'une actrice qu'on ne verra jamais, qui s'appelle Shahrzad, très populaire à une époque, bien avant la Révolution, et qui vit cloîtrée dans une maison devant laquelle Panahi va garer son 4x4. Bref, un film tourné clandestinement avec des moments, je trouve, très drôle, plein d'humour pour dire des choses évidemment d'une grande gravité. Eric.
À un moment donné, Panahi dit quand on veut se suicider, on se débrouille. Et le cinéma, c'est un peu la même chose. Quand on est assigné à résidence, on fait avec et on tourne un film malgré tout.
Assigné à résidence, c'est interdit de tournage.
Oui, enfin, interdit de tournage. Pas tant que ça, puisqu'il y a des films sans arrêt. Mais bon,
c'est pour ça qu'ils tournent dans les voitures et dans les taxis.
Et c'est bien la preuve qu'il faut décourager la création. Et c'est ce qu'on devrait faire ici. Ça nous éviterait 250 films français inutiles. Et on aurait des films comme ça. Non, c'est beau, c'est courageux. En même temps, je me demande si Panahi n'est pas en train de devenir un concessionnaire de bagnoles. Parce que dans le précédent, c'était un taxi. Là, on a un 4x4 dont je ne sais plus si la marque est Subaru ou Pajero. Il faudrait que je m'en sais.
C'est un 4x4 neuf, d'ailleurs. Hein.
C'est une belle figure de style, ça. Dans le taxi, on ne quittait pas du tout la carlingue, l'habitacle de la voiture. Là, on voit dehors un peu ce qui se passe. Et il y a un côté Marcel Aimé, j'ai trouvé, dans ce village, avec tous ces personnages un petit peu.
Même Pagnol, par exemple, quand ils apprennent le langage des klaxons,
oui,
pour arriver à passer sur la même route.
Pour passer sur la route sinueuse. Et le film est un peu comme le 4x4. Il arrive à circuler à travers tous les méandres. Et ses portraits de femmes sont assez réussis. Il y a le sens du quotidien. Il y a des petites longueurs. Mais quand on sait dans quelles conditions il a pu tourner ça, c'est un film très charmant, très profond. Et ces trois portraits de femmes de trois générations différentes, avec les personnages secondaires, comme le frère qui est un fou furieux, qui veut tuer tout le monde, détruire sa maison, faire subir les pires avanies à la gamine. Et l'astuce, c'est de ne pas montrer la comédienne qui était célèbre avant le régime des ayatollahs, qui est dans sa maison, qui n'a plus le droit de tourner, qu'on ne voit pas. C'est très, très beau. Ouais, et ces trois femmes qui dansent en ombre chinoise derrière un rideau, c'est une scène qu'on n'oubliera pas.
Et on ne vous dira pas, évidemment, si la petite...
Et il y a une histoire de prépuce assez rigolote.
Du début. Très... Ah oui, ouais. qui font mettre un acteur célèbre.
Moi, je pense que si ça m'était arrivé, on a dû l'enterrer devant la maison de la radio, le truc.
Charlotte.
Oui, le film, je trouve, d'une extrême richesse et preuve qu'on peut faire du très grand cinéma avec une économie de moyens assez incroyable. Pour moi, c'est difficile de voir le film autrement que comme une métaphore du parcours du cinéaste empêché, avec clairement le parallèle avec cette jeune fille qui veut être comédienne et là, ce cinéaste empêché. C'est à la fois une métaphore et en même temps, je trouve un pied de nez extraordinaire puisque le réalisateur est assigné à résidence et il fait un film de road movie, c'est-à-dire un film qui se déplace, qui voyage, qui prend l'air et qui, par ailleurs, est un hommage quand même à Abbas Kiarostami, qui était son maître, puisqu'il était, je crois, son assistant et co-scénariste sur certains films. Et quand on voit tous ces plans filmés de l'intérieur d'une voiture sur ces routes sinueuses de montagne, il est quand même extrêmement difficile de ne pas penser au goût de la cerise ou au travers les oliviers. Et après, comme vous le disiez, le film a un humour, une espèce d'humour elliptique incroyable. C'est extrêmement malicieux, c'est généreux.
La première scène, ils arrivent, donc les deux, Panahi et la comédienne, ils arrivent. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Une vieille dame qui est en train de tester sa tombe.
La dimension de sa tombe. Pour savoir si ça va bien coller. Et sous couvert, un peu comme ça, de découvertes pittoresques, il épingle quand même très fermement la société patriarcale iranienne, avec effectivement le portrait de ces trois femmes de trois générations différentes qui sont artistes, qui l'ont été ou qui veulent le devenir. Donc pour moi, c'est un film profondément féministe, généreux, sensible, poétique, et qui quand même, malgré tout, donne une lueur...
Et politique, bien sûr.
Et qui, moi, me donne une petite lueur d'espoir, dans le sens où, dans Taxi Téhéran, souvenez-vous, aucun nom ne figurait au générique, puisque tous les techniciens avaient peur de représailles, et là, pour celui-là, ils ont tous tenu à avoir leur nom au générique. Donc un espoir est possible.
Xavier, c'est une merveille, c'est vraiment... un film d'une intelligence, d'une subtilité. Ça commence par cette vidéo, effectivement, que reçoit la comédienne. Et c'est elle qui a un doute. C'est elle qui se dit, il y a une image manquante, il y a un truc qui me chiffonne. Et elle tend la vidéo.
On comprend d'ailleurs qu'elle ait un doute.
Oui, absolument. Mais Panahi lui dit, non, moi j'ai l'impression que la vidéo, elle est vraie. Je vois pas ton plan de coupe, je vois pas très très bien. Donc l'homme de cinéma ne voit pas ce que la comédienne, certes, mais a comme intuition sur... ce mensonge éventuel, cette vérité, cette contre-vérité. Donc c'est déjà extrêmement intéressant. Le coup de la route à sens unique, c'est quand même une métaphore de la censure absolument superbe. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, on vous impose un sens unique, mais il suffit de penser et de réfléchir un tout petit peu et de faire confiance à l'intelligence des hommes. Et cette route à sens unique, elle va venir à double sens pour peu qu'il y ait un peu de solidarité et pour peu qu'il y ait un peu d'entraide. Donc tout ce qui est métaphorique, comme tu l'as très bien dit, Charlotte, devient un moment de cinéma pur, de poésie, de hors-champ, d'espace. L'histoire du prépuce, elle est extrêmement drôle, elle est extrêmement tragique, puisque c'est le prépuce d'un jeune garçon que les parents ne trouvent pas assez viril et que l'on confie à la comédienne pour qu'elle le donne à un acteur qui joue les brutes épaisses dans la série télévisée. Donc c'est la peur de la différence, c'est la peur d'un garçon qui ne serait pas assez viril, qui ne serait pas en train d'affirmer des choses. Et je trouve que, mine de rien, l'intelligence avec laquelle il n'en font jamais, il n'est jamais dans le dolorisme, regardez, je suis interdit de filmer tout ça. Non, de tout ça, il s'en fout, il en fait liberté.
Lui-même au volant et donc est assez patelin, il est assez bonhomme.
Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'aucun dolorisme et au contraire un regard sur les autres, un regard d'espoir, un regard d'humanité, c'est superbe.
Pierrot
Non mais je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est un film peut-être où le jury a eu raison de le primer, mais peut-être pas pour son scénario simplement.
Oui,
le jury s'est totalement trompé sur pratiquement tout cette année, mais là le scénario semble justement fait comme vous avez dit sur.
Il est presque improvisé.
De temps à autre, donc je ne vois pas qu'est-ce que le scénario fait là. Moi je suis très sensible en effet à ce fantôme. Que l'on voit cette actrice qu'on ne voit pas et dont on comprend qu'elle a subi plein de choses.
Et qui a vraiment fait les beaux jours du cinéma populaire en Iran avant la révolution.
Qui
a accepté de prêter sa voix, lit un poème à un moment, donc on entend juste sa voix.
En même temps, c'est peut-être un petit peu trop, si je peux me permettre, un hommage à Abbas Kiarostami. C'est-à-dire que, oui, c'est pas grave, c'est son maître, il a été son disciple, mais là, à un moment donné, je voudrais que, en dépit de...
Mais c'est beau, je trouve, l'exercice d'admiration.
Oui, c'est très très bien. Peut-être que ça ne dépasse pas le goût de la cerise de Kiarostami. Voilà.
C'est trois visages de Jafar Panahi, prix du scénario à Cannes, pas de réaction sur ce film. Un autre voyage très différent, c'est l'extraordinaire voyage du Fakir. Je le rappelle, c'est d'abord un roman, le premier de Romain Puertolas, ancien lieutenant de police des frontières, paru aux Dilettantes en 2013, et dont le titre exact est « L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea ». Et c'était entre Roissy, Folkestone, Barcelone, Rome, Tripoli, les tribulations d'un fakir moustachu du Rajasthan qui achetait un lit à clous chez Ikea, échappait au chauffeur de taxi gitan qu'il avait escroqué et retrouvait la Française dont il était amoureux après l'avoir quand même grugé. Le roman, dans mon souvenir, emprunté à Gérard Houry et au Monty Python, un peu à Audiard pour les dialogues. Et c'est maintenant donc un film du cinéaste et humoriste canadien Ken Scott avec la star indienne Danouche dans le rôle du fakir de New Delhi qui arrive en France, qui se rend chez Ikea, qui tombe amoureux d'une Parisienne. On retrouve vraiment tout le
une
roman
américaine.
Américaine qui se planque dans la fameuse armoire qui va être expédiée au Royaume-Uni, suivre le parcours des clandestins sans cesser de vouloir retrouver celle qu'il aime, avec également Erin Moriarty, Gérard Jugnot, chauffeur de taxi. Je ne sais pas ce qu'il lui a, s'il avait lui aussi des problèmes de fin de mois.
Ouais, il y a deux scènes. Hein.
Bah oui, n'empêche.
Vraiment, oui, une petite apparition.
On les remarque.
Absolument.
Brièvement, Bérénice Bejo, qui incarne la Sophie Morceau du roman. Je dis bien Sophie Morceau du roman. Donc, un feel-good movie à l'image. Alors là, je dois être particulièrement laid. J'ai rarement vu un film aussi laid depuis très longtemps. Et que Romain Puertolas a scrupuleusement co-scénarisé. Eric.
Oui, ça fait mal aux yeux, ça, comme film.
De quoi?
C'est très laid, c'est très bête, ça n'en finit pas.
C'est gentillet.
C'est un très mauvais film parce qu'il y a des montgolfières. Il y a une montgolfière dedans et dès qu'il y a une montgolfière dans un film, c'est un navet.
C'est quoi ce théorème?
Mais
c'est quoi ce théorème?
Bobby Deerfield. Qui n'est pas du tout le meilleur film. Non, c'est pas mal.
Et surtout,
le jour et la nuit. Vous n'allez pas me dire. Et là, mais tout est raté dans ce film. L'acteur est épouvantable. Je sais pas si c'est une star.
Danouche.
Ah, mais il a des grands yeux d'ahuri, il joue l'étonné sans arrêt.
C'est une star, là-bas. Hein.
Mais il paraît,
là-bas,
on leur laisse leur star.
Tout le monde se lève pour Danouche, là-bas.
Il n'y a même pas ça dans le film.
Oh, c'est pas...
Au curry.
Et puis, ces armoires Ikea, c'est tellement compliqué à monter qu'on comprend que le gars soit endormi dedans. C'est terrible. Et il y a un numéro de comédie musicale.
Je suis sûr
musicale.
Que tu n'as jamais monté, toi, une armoire.
Si, j'ai essayé, d'ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas d'armoire à la maison. Et un numéro de comédie musicale à la douane d'Angleterre. Oh, ouais. Mais si ça se passait comme ça, mais tous les migrants repartiraient chez eux, tellement c'est épouvantable.
Oh.
Le numéro de danse dans une boîte à Rome avec Bérénice Bejo est d'un ringard, mais terrifiant. Bérénice Bejo, elle est là en train de se demander ce qu'elle fait. Le pauvre Gérard Jugnot est là, pourvu qu'aucun de mes copains splendides ne voit ce film parce qu'ils vont se moquer de moi pendant tout le restant de mes jours. C'est terrible ce film. Je crois que je sais pas comment était le livre, mais c'est pas possible.
Le roman était drôle. Enfin, moi, j'ai un souvenir d'avoir qui était un gros roman d'ailleurs. En plus, pour un premier roman assez épatant, c'est-à-dire qu'il savait faire, quoi.
Parce que ça a coûté cher, visiblement. Alors, il aurait mieux valu donner cet argent à des clochards pour qu'ils aillent boire un coup.
Oh là là. Pierre.
Mais de mon côté très gentil depuis quelques temps, je vais continuer à dire...
Tu as une chemise ce soir, je le dis pour nos auditeurs qui ne sont pas équipés de caméras. Un peu Danouche.
Mais absolument. Un peu Danouche. Oh, il n'est pas si mauvais que ça, Danouche. Oh. Qu'est-ce que tu as contre Danouche? Et Bérénice Bejo, dans son... Ben non, c'est une parodie de Bollywood. Ben, elle s'en sort plutôt bien. Non, moi, je ne me suis pas ennuyé. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le type de cinéma qui m'intéresse beaucoup. Mais enfin, c'est pas...
C'est un
des
peu trop long, hein.
Oh, il y a des films beaucoup plus longs et beaucoup plus embêtants que ça.
Il y a 2h05 de trop.
Mais non, ben voilà. Mais il faut prendre ça pour ce que c'est. C'est-à-dire qu'un divertissement... sans aucun intérêt, mais qu'on voit sans déplaisir. Mais bien sûr, on voit ça. Moi, je me suis assis sur mon fauteuil dans le cinéma des Halles.
C'est le principe du fauteuil, hein.
Ben voilà. Et j'ai regardé
ça. C'est la planche à clous. Hein.
Mais voilà. Et puis, et à la fin, je suis sorti en disant, ben, j'oublierai ça dans 15 jours. Mais en tout cas, sur le moment, on prend un petit plaisir. Voilà, c'est tout.
Xavier, les petits plaisirs.
Moi, je trouvais qu'Éric Zemmour, Éric Neuf, particulièrement sévère.
Ne me flatte pas.
Avec le film. Excuse-moi, mais sur les propos sur les migrants, du coup, j'ai vu un autre Éric à ta place.
Je les défendais, mais
moi, je suis comme Pierre.
Oui, bah,
c'est très inégal. Il y a un côté manège, effectivement, carrousel, où il y a tout et son contraire. Mais moi, j'aime plutôt bien le début quand le gamin se rêve dans un appartement entièrement équipé d'IKEA, alors qu'il habite avec sa pauvre mère dans un endroit vraiment un peu sordide. Je trouve qu'il y a comme ça, dans le consumérisme projeté, imposé, il y a une certaine critique qui fonctionne plutôt bien. Moi, Danouche, je suis comme toi, je trouve qu'il a une capacité d'acteur à la fois dans l'autodérision, à la fois capable effectivement de faire une scène de Bollywood improvisée que je trouve plutôt réussie. Effectivement, avec Gérard Jugnot, c'est raté. Il y a des choses qui ne sont pas réussies. Mais dans l'ensemble, le film n'est pas agressif. Les couleurs, effectivement, elles sont kitsch, elles sont saturées. Mais je suis un peu dans le cahier des charges de ce genre d'histoire. Je trouve que la manière de raconter les histoires à des enfants qui ont été arrêtés...
C'était le cas dans le roman où tout était volontairement outré.
Mais voilà, ça ne fonctionnerait pas si on arrivait vers le réalisme et tout ça. Il y a la transmission de l'histoire. Il y a ce gamin qui s'en est sorti, qui raconte ça à trois enfants qui ont été arrêtés. Moi, je suis comme Pierre, ça m'a pas pris de haut, ça m'a amusé, ça m'a séduit. Je trouve que la séquence avec Bérénice Bejo est assez savoureuse, assez rigolote.
Ouais, elle est bien.
Une star du cinéma français.
Pour une fois, elle est très bien en plus.
Oh. Oui, parce que.
Bon, Charlotte.
Je suis comme effectivement Pierre et Xavier. Faut pas bouder son plaisir et prendre le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire un feel good movie, une comédie familiale qui divertit, voilà, qui quand même pointe un peu les absurdités du monde, alors que ce soit l'immigration clandestine ou l'extrême pauvreté du monde, qui assume les clichés, c'est-à-dire que quand cet Indien arrive à Paris, tout de suite, il y a un air d'accordéon et le chauffeur de taxi, Gérard Jugnot, a une casquette. D'accord. C'est tellement énorme et l'arnaque.
Étranger.
Mais c'est plutôt rigolo.
C'était dans le roman.
Mais c'est plutôt rigolo. Et moi, je trouve que ça remplit ce cahier des charges de divertissement familial. Des grands-parents peuvent amener leurs petits enfants. Je trouve que rien n'est vulgaire et qu'il y a ces scènes musicales qui sont assez réjouissantes. Voilà, il y a des couleurs, il y a des odeurs et Danouche a quand même du charme.
L'extraordinaire voyage du fakir. Bon. C'est donc le film de Ken Scott et Je vais mieux de Jean-Pierre Améris, le réalisateur de Poids léger et des émotifs anonymes. C'est l'adaptation du roman de David Fuenquinos. Laurent, Eric Elmosnino, quinca marié, architecte, père de famille, tendance hypochondriaque, qui éprouve un soir, lors d'un dîner avec des amis, un fulgurant mal de dos, comme 10 millions de Français, puisque c'est, paraît-il, le mal du siècle. Il fait le tour des médecins, des radiologues, des ostéos, et il voit sa vie professionnelle et personnelle, bien sûr, déraillée, sans que cesse cette douleur dans les lombaires, que le docteur Le Herpeur pourrait d'ailleurs nous expliquer. Bref, il en a plein le dos, et il va comprendre que ce mal a forcément...
J'ai arrêté au membre inférieur, je ne suis pas monté plus haut.
Et il va comprendre que ce mal a forcément une raison profonde, avec aussi Harry Arbitant, Alice Paul, Judith Elzen et François Berléand, qui lui aussi a quelques problèmes de fin de mois. Typiquement, ce qu'on appelle, enfin, ce que tu appelais à une époque le film sympatoche, voilà. On va aller assez vite, Xavier.
Oui, c'est sympatoche pendant la première partie. Je trouve que sur l'hypocondrie des personnages, ça fonctionne plutôt bien.
Une fois qu'on a compris le truc.
La situation, tout ce qui tourne autour de son lieu de travail où il est humilié par son patron et pas d'une grande finesse. Mais bon, ça fonctionne, l'hypocondrie et tout ça. La deuxième partie, la thérapie, c'est une catastrophe. Il faut quand même dire un tout petit peu les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il va trouver le moyen peut-être d'effacer ce mal de dos en effaçant quelques mauvais souvenirs de son existence. Et là, il ne se passe plus rien, c'est terrible, parce qu'Alice Paul, que j'aime plutôt bien, qui est une comédienne qui a une couleur, qui a une petite tonalité comme ça, je la trouve particulièrement fadasse cette fois-ci, et ça tourne en rond, quoi. C'est-à-dire qu'il va aller dire merde à tous les gens à qui il n'a jamais osé dire merde, et ça ne va nulle part.
Mais il
n'y
a pas la matière d'un film,
mais il n'y a pas d'enjeu, mais bien entendu, il n'y a pas de dramaturgie, c'est un petit caractère de fiction, de littérature, parce qu'on peut peut-être y retrouver quelque chose, mais en cinéma, il faut un enjeu.
On ne sent même pas le débat possible après sur le mal de dos.
Non.
C'est un peu dommage parce qu'on comprend assez vite pourquoi Jean-Pierre Améris pouvait être attiré par le héros de ce roman. C'est vrai qu'il a toujours aimé les héros un peu les discrets, les timides, les maladroits. On se souvient des émotifs anonymes ou d'autres films.
C'était pas mal les émotifs anonymes.
Absolument.
Très joli.
Il y avait vraiment un héros pour lui. Le problème, c'est que dans cette comédie un peu douce amère, il y a une espèce de mélancolie latente qui est assez jolie, mais qui est systématiquement contrebalancée par des scènes de comédie pure et totalement forcées qui tombent à plat. Donc le film ne trouve jamais son bon bon rythme, c'est assez mou. Et je suis comme Xavier, effectivement, la première partie se tient plutôt bien, mais alors après, ça dégringole et c'est assez décevant.
Et pourtant, El Mosno est vraiment un bon comédien, mais il a un physique à avoir le mal de dos. Hein.
quand Eric. On voit le film aussi, on a le physique à ça. Hein. Non, ouais. Non, c'est un film complètement inutile et indigent. Améry, c'est un type qui peut être un réalisateur délicat par moment, mais là, il doit avoir aussi des fins de mois difficiles, je ne sais pas.
On s'étonne de ne pas retrouver la finesse de ces films.
C'est un
précédents.
Peu gênant. Et ils ont l'air d'habiter dans un magasin Ikea. C'est très moche, suréclairé. On n'y croit pas une seconde. Toutes les répliques sont téléphonées, toutes les scènes sont prévisibles. C'est le genre d'humour où la femme dit à son mari « Tu te laisses marcher sur les pieds, c'est pas étonnant que t'aies mal au dos ». C'est un peu effrayant, j'ai trouvé. À un moment donné, le couple se retrouve au restaurant, ils sont en train de lire la carte et la femme dit « Je vais prendre un avocat ».« Ah, bon choix », lui dit le mari. « Oui, on va se séparer ». Et là, c'est le moment où je suis parti pour relire un roman sur le mal de dos de Philip Roth qui s'appelle « La leçon d'anatomie » et ça m'a fait du bien.
Allez, un mot de Pierre.
T'es le meilleur. Non, mais je suis d'accord, la première partie est plutôt bien parce qu'Eric El Mosno est bien.
Première partie.
La mise en
ouais,
place.
Je voilà. dirais une demi-heure. Puis alors,
Et
après, mais non, mais en gros, c'est quand il va mal que le film va bien, puis quand il va mieux que le film va très mal, quoi. C'est en gros.
J'avais pas pensé à ça.
C'est ça. Là, et voilà. Mais alors, il y a surtout la scène où il va se réfugier chez des amis, le dentiste avec les décors, la copine du dentiste qui peint des toiles.
Bon, oui, on va le laisser chez le dentiste.
Mais c'est dommage.
Voilà. Je vais mieux, Jean-Pierre Améris, volontaire, un film de l'actrice Hélène Fillière avec Lambert Wilson en grand uniforme, Diane Rouxel, Josiane Balasco, André Marcon, l'aspirant Corentin Fiola, l'instructeur Alex Descas, Laure, c'est donc Diane Rouxel, une jeune, brillante femme de 23 ans aux yeux bleus, issue d'un milieu intello, au moins c'est clair, le père c'est André Marcon, et la mère qui est comédienne, c'est donc Balasco, et voici que Laure décide de s'engager dans la marine nationale afin de trouver exactement comme Xavier un cadre, une structure, des repères.
Une autorité.
Une autorité.
Une autorité.
Une autorité.
De l'ordre.
Elle commence donc dans les bureaux, et puis elle veut ensuite rejoindre les commandos avec Lambert Wilson dans le rôle du commandant Rivière. Assez intraitable, mais évidemment qui ne sera pas totalement insensible. Ça dure 1h40. Ça m'a rappelé un peu le cinéma de Schoendorfer. Oui, oh j'ai vu que t'aimais ça, toi, oui, dans Télérama, oui.
Ah, oui, je trouve
Mais t'aimes
ça...
pas Schoendorfer?
Pas tant que ça, pas tant que ça.
Non, mais dans l'esprit, il y a quand même des Schoendorfer, non? Vous trouvez pas?
Non, c'est le parcours d'une jeune... Enfin, je veux dire que Schoendorfer, il peignait l'honneur militaire, en gros.
Il y a assez peu de femmes chez lui.
Ouais, d'abord, pour commencer. Mais là, ce qu'elle essaye de faire, c'est de montrer une jeune femme qui a... alors que tout le monde est contre sa famille, sa mère actrice, etc. Ça, oui. Et voilà. Et pourquoi tu veux t'engager et faire carrière là-dedans? Et la réalisatrice, Hélène Fillière, montre, moi je trouve ça, c'est pas un très grand film, mais elle le montre très bien, c'est quelqu'un qui est résolu à faire ça, qui va jusqu'au bout.
Une fois que t'as passé l'argument que tu viens de donner, qu'est-ce qui se passe?
Mais il se passe plein de choses, puisqu'elle tombe sur, si j'ose dire, Lambert Wilson, et il y a des scènes presque de comédie dans le bureau où ils travaillent ensemble, où ils sont séparés par une vitre, et donc elle est un peu troublée par lui, quinquagénaire, plutôt séduisant, mais elle continue droit sur sa mission, et lui est troublé pour des raisons qu'on ne révélera pas à la fin, parce qu'il ne sait pas exactement si c'est la fille qu'il aurait voulu avoir, ou si c'est... Il est très troublé.
Attention, Pierre, attention.
Seul truc vraiment qui fasse que...
Mais non, j'ai rien dit.
T'as raison.
S'il est troublé par la fille qu'il aurait voulu avoir, je dis bien, ou bien...
Ou bien
s'il est troublé tout court, eh ben, je trouve que ce marivaudage-là, elle le fait plutôt allègrement et habilement. Voilà, c'est tout.
Xavier ?
Moi, ça m'a rappelé dans Astérix, ils disent toujours « engagez-vous » qu'ils disaient.
Ouais,
c'est un tout petit peu quand même 1h40 de promotion pour
l'engagement. T'as envie de t'engager, toi ? Moi, j'ai pas du tout envie de m'engager.
Pas du tout.
Mais j'ai pas du tout envie de m'engager dans les marines.
La seule chose qu'elle réussisse à faire dans le film, c'est que c'est aussi chiant et inutile que le service militaire. Ça, c'est vrai.
La marine.
Mais non, mais non.
La marine.
C'est important, le service militaire.
Mais moi, je l'ai fait, donc je peux en témoigner. C'est chiant, inutile.
Ben, moi pas.
Donc, c'est quand même un film pour rien, un film lisse, un film sans aspérité. Je ne t'ai pas interrompu, Pierre, et je ne raconterai pas la fin. Mais la fin, en même temps, est extrêmement intéressante parce qu'elle ressemble à la manière dont le film est constamment écrit. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un vague problème, une vague problématique, elle la résout au moment où ça devient intéressant et elle passe à autre chose. Absolument. Donc, du coup, elle ne traite aucun sujet de front.
Mais qu'est-ce que tu veux dire?
Quand elle découvre la sexualité de son petit camarade, pof, le personnage disparaît. Or, l'homophobie dans les rangs de l'armée.
Le personnage disparaît pas du tout, mais il est là et c'est pas le sujet,
Xavier. C'est pas le sujet. Le problème, c'est qu'il
n'y a aucun sujet, à part le fait qu'elle va réussir à franchir un mur d'1m50. Je m'en fous comme de l'entrant. Il est évident qu'elle va y arriver de
mais
toute
non,
façon.
Mais non, c'est pas évident qu'elle y arrive, Xavier.
C'est un dépassement de soi-même, à la virilité dont les femmes sont capables.
Mais pas du tout.
Et alors, les scènes où elle est en train de regarder Lambert Wilson dans le bocal, on a l'impression qu'elle regarde un poisson rouge. Enfin, j'ai trouvé ça, mais d'une inutilité, ils sont constamment... Alors, ça dit un truc très vrai sur l'armée, c'est-à-dire que lui, 90% de son travail consiste à poser sa tête contre son front, contre la fenêtre, et regarder dehors. C'est-à-dire, si on est bien défendu, quand même, par les militaires, ça tombe
mais
bien,
c'est
il
pas
est
beau, tu parles pas du film,
bien,
film,
il est bien habillé, mais on tu a parles droit pas du film. Au lever de drapeau non, dans le détail,
tu m'énerves parce que
mais
tu
c'est
parles
très
pas
prosélyte.
Mais
si,
non, tu parles pas du film.
Il est lisse, il n'est pas bien écrit.
Mais non, c'est pas lisse, c'est le trouble tout le temps.
Mais non, le trouble tout le temps, parce que c'est tellement mal écrit qu'Alex Desca dans la voiture est obligé de dire t'en penses pour ta jolie petite militaire
mais
là.
C'est pas vrai
enfin, c'est consternant
enfin,
non je suis désolé
Eric.
Ben moi j'ai trouvé que c'était un très bon film.
Bah ben voilà, c'est ce que je disais, tu vois.
Ben pourquoi mais non,
si Zemmour le défend,
ben
c'est que c'est un film pour
mais non, mais une fille qui veut entrer dans la marine à 23 ans, ça nous change un peu des sujets qu'on se tape d'habitude.
Mais
où ça,
c'est le début du film.
Mais oui, mais
qu'est-ce qui se passe après?
Qu'est-ce qu'on voit sur les écrans?
Il se passe
un type
plein de choses.
Non.
On voit un chemin de l'affirmation de soi.
Mais oui, c'est un film féministe.
C'est marqué au début.
Non, et puis attendez, pourquoi elle fait ça?
Pour le chemin vers soi, prenez cette direction.
Sa mère, c'est Josiane Balasco. Donc... Si j'aurais Josiane Balasco comme mère, je serais parachutiste, moi.
Mais sans parachute.
Et en plus, c'est assez malin, le film, parce que c'est Josiane Balasco dans le rôle de Josiane Balasco, puisque sur un mur, il y a punaisé l'affiche de la femme rompue.
Et je te rappelle,
qu'a joué
c'est
Josiane Balasco.
Hein. Je te rappelle,
et
c'est
oui, bah, alors, lui, il reste un peu en dessous. Et la fille, elle a trouvé des études de lettres à la noix, elle en a marre, elle a trouvé un moyen de s'affirmer. Ça se trouve que c'est dans l'armée. Elle tombe sur Lambert Wilson, avec qui il y a quelque chose.
Oh.
Ah non, bah non, oui. Parce que c'est le rapport entre les deux.
Bon, mais, on peut plus rien dire.
Ils sont en train de lire leur Jib, mais le film fait penser à plutôt à La Bête dans la jungle d'Henry James, parce que rien n'est dit, tout est montré. Il suffit d'un voyage, d'un trajet en voiture avec Nick Cave dans l'autoradio,
ben oui.
Et on comprend tout. Et la fin que Pierre a pratiquement raconté.
Mais pas, ah non, c'est, non, j'ai mais, pas raconté la fin, c'est pas vrai.
Elle le veut, son béret vert. C'est l'histoire d'une affirmation, et ça, c'est un vrai film féministe, je suis désolé.
Mais bon. Ça passe en dessous, en bandeau, ceci est l'histoire d'une affirmation, ceci est l'histoire d'une affirmation.
Mais non, c'est pas en bandeau.
Mais c'est un peu trop de confiance au cinéma.
Mais c'est du cinéma, il y a une retenue.
C'est du cinéma,
qu'en pense la caporale Charlotte?
La caporale Charlotte a été assez fascinée par le trouble entre Diane Rouxel et Lambert Wilson, effectivement, ces deux personnages, parce que dans ce chemin de l'affirmation de soi qui passe à la fois par un cadre un peu rigide, celui de l'école de marine nationale,
contre lequel on
et
est
par
pas.
La rencontre avec son directeur des études incarné par Lambert Wilson, ce que je trouve assez beau, c'est que cette histoire, elle est triplement empêchée. Elle est empêchée par la différence d'âge, par le rapport hiérarchique et par le cadre de cette école dans lequel il s'inscrit. Et pourtant, on le ressent. Ce trouble, c'est-à-dire c'est pas une histoire d'amour raté, il se passe véritablement quelque chose. Alors effectivement, c'est par les regards, c'est dans les silences. Je comprends qu'on puisse trouver la mise en scène de Hélène Filière peut-être un peu austère, avec une certaine sécheresse du récit, voire froide, mais moi au contraire, je la trouve extrêmement acérée, rigoureuse, avec une espèce de pureté, de ligne pure qui est totalement cohérente avec le décor du film à Lorient qui par ailleurs est extrêmement bien éclairé. Et puis Diane Rouxel, elle est fascinante. On l'avait découvert dans La Tête Haute d'Emmanuel Berco, là c'est son premier rôle, elle est démente.
Volontaire, Hélène Filière, voilà. Pas de réaction sur ce film. Alors voilà, parlons d'un film bien éclairé, maintenant vite le book club d'un inconnu qui devrait le rester, qui s'appelle Bill Olbermann. Et c'est le portrait de quatre Américaines qui forment un club de lecture et découvrent, je le raconte pour Eric, qui ne l'a pas vu, qui a refusé de le voir, qui découvre avec exaltation le fameux Harlequin érotique 50 nuances de Grey, qui décrit, je vous rappelle, la relation entre une jeune diplômée en littérature, Anastasia, et un homme d'affaires, Christian Grey, qui s'est vendu quand même, Eric, dans le monde à plus de 125 millions d'exemplaires. Bref, émoustillée par le best-seller, Diane Keaton, qui est célibataire, qui va connaître le septième ciel avec un pilote d'avion, Viviane, Jane Fonda, qui retrouve un amour d'autrefois, Sharon, Candice Bergen. Vous vous rendez compte de la distribution ?
C'est 50 nuances de Denise Gray.
Et il ne l'a pas vu. Hein.
Exactement.
Donc Sharon, Candice... Candice Bergen.
Il ne faut pas voir les films.
Qui surfe sur les sites.
Ça influence.
Qui surfe sur les sites de rencontre. Et Carole. C'est Marie Steenburgen qui remet du piment dans son vieux couple. À côté, vous l'avez compris, les feux de l'amour, c'est du Bergman. En quelques mots, mais rapidement, le choc, quand même un choc. Hein. Je parlais de Jurassic World, mais là, à côté, on réclame la 3D quand même, non ?
J'ai jamais vu. Alors, j'étais dans une salle hier, parce que je n'avais pas eu le droit de le voir en projection de presse, où ça riait beaucoup au début, mais après, le public s'est assoupi, parce qu'il avait un certain âge. Mais non, je suis désolé. On a entendu quelques ronflements. Bah, c'est Sex and the City pour le troisième âge, sauf que ça a déjà été fait. Ça s'appelait Les Craquantes dans les années 80, qui était une série à mourir de rire sur quatre vieilles qui habitaient ensemble. Là, le problème, c'est qu'elles ont toutes demandé une avance, sauf Candice Bergen, qui n'en avait pas besoin, parce qu'elle a pris 40 kilos. Mais elles ont toutes demandé une avance sur salaire pour pouvoir se liftées, donc elles n'ont plus d'âge, c'est inquiétant, elles sont écrasées par les kilowatts pour essayer d'effacer les dernières rires, elles sont d'une laideur, on les a aimées, ces comédiennes, Diane Keaton, la pauvre, elle a oublié qu'elle avait travaillé avec Woody Allen, visiblement, elle est hystérique, elle grince de tout, des dents, des ongles, c'est la pire,
parce qu'elle minaude et elle éclate de rire alternativement tout le temps. Quoi.
Enfin, alors c'est vraiment Loi Blanche qui va redécouvrir le plaisir, enfin, celle qu'elle a reçue.
Elle ressemble toute à Donald Trump, je trouve.
Il y a quelque chose de
côté, c'est très troublant.
Et on leur en veut, quoi. Ça ne relance qu'une seule chose, c'est le débat, effectivement, sur la caisse de retraite aux États-Unis. On n'a pas le droit de faire ça à des comédiennes. Enfin, je veux dire, c'est terrible. On ne peut pas dire à la fin du film aucun comédien n'a été maltraité. Si, toutes les comédiennes ont été maltraitées, quand même.
Les mecs ne sont pas tristes non plus.
Alors, il y a des répliques.
Don Johnson et Richard Dreyfuss et les autres.
Et puis, on a quand même des allusions sexuelles d'une grande finesse quand elle va, Candice Bergen, avec sa chatte. L'animal chez le véto, et que l'animal lui dit « Oh, votre chatte est léthargique, il faudrait qu'elle se remue un peu plus !» Et l'autre, elle se dit « Oh, mais je crois qu'il parle de mon chat, mais en même temps, je pense à autre chose !» Et immédiatement après, on a un plan de Marie Steenburgen qui met de la crème blanche dans les fraises. C'est délicat.
Et on a le mari de cette dernière qui parle de sa moto de jeunesse en disant « Oh, je la chevaucherai bien, elle a besoin d'être lubrifiée, d'un peu d'huile. »
Oui, c'est génial.
Demande à passer au lit avec son mari.
La seule que je défends un peu, moi, c'est Jane Fonda, parce qu'elle hérite du rôle de Bette Davis, quoi, en quelque sorte. Elle a les répliques les plus cyniques, donc ça porte
un peu
plus.
Parce que c'est la croqueuse d'hommes libre, indépendante.
C'est quand même Jane Fonda.
Mais ça fait très très mal. On est vraiment désolé et finalement, c'est assez triste quand même. Ouais. Et surtout, on s'aperçoit que le curseur de la grivoiserie américaine n'est pas tout à fait au même niveau que chez nous, les Français. C'est-à-dire, ça délivre un message tartignole au possible, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, et le sexe sans émotion, ça va un temps, mais c'est quand même pas terrible.
Mais contentez-vous des vieux beaux que vous avez, c'est un message très réac.
C'est vrai qu'aucune ne se fait un petit jeune.
Elle vaut leur tranche d'âge.
Le book club, donc retenez bien le nom du réalisateur aussi, Bill Holderman.
C'est un premier film.
Que Eric va aller voir dès cette émission.
Il en a fait deux d'un coup, le premier et le dernier.
J'avais inscrit, mais on n'a plus beaucoup le temps, le film, j'allais dire presque posthume, la question privée, des frères Taviani, puisque Paolo et Vittorio Taviani l'ont signé, et puis depuis Vittorio est mort.
C'est magnifique.
Le 15, un peu trop de brouillard, mais.
Qu'est-ce que c'est beau. Hein.
De 15 avril dernier à 88 ans, un film bref, 1h24, qui se passe à l'époque du fascisme et de la résistance. Ça se passe dans un beau lieu d'ailleurs, très, 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 très embrumé. Une histoire qui est adaptée d'un roman de de Beppe Fenoglio.
Très rapidement, je trouve Pierre. Ça absolument formidable. C'est le meilleur film qu'on ait vu là de cette soirée. Mais dès les premières images, cette brume qui brusquement découvre cette propriété dans laquelle, quelques années auparavant, il y avait une nostalgie amoureuse.
Il y a deux hommes amoureux de la même femme.
Ils sont tous très beaux en
très
plus.
Belle,
et puis ça rappelle vraiment dans l'intensité du lyrisme et de l'engagement politique, les grands films, Allons-enfants ou Chaos, enfin des Taviani, qui sont au purgatoire maintenant. Plus personne parmi les jeunes, je crois, ne sait qui sont les frères Taviani. Mais vraiment, allez-y.
C'est du cinéma à l'ancienne en même temps, il faut le dire.
C'est du cinéma à l'ancienne, mais qu'est-ce que c'est bien.
C'est pas révolutionnaire, un mot, juste, mais en France.
Non, c'est la rencontre des Finzi Contini et des premiers Bertolucci. D'ailleurs, le personnage s'appelle Clerici, ce qui était le nom de Trintignant dans Le Conformiste. Et Le Brouillard est très beau, ne t'en déplaise.
Ah, ouais, très beau.
C'est un film onirique, pictural, et dont le non-réalisme total, parce que tout paraît faux, et un côté extrêmement théâtral, signe finalement vraiment l'esthétique du film, et qui est assez magnifique. Et moi, je le conseille vraiment, notamment pour deux scènes que je trouve absolument fulgurantes. Un fasciste qui se fait arrêter, qui perd la tête et qui devient batteur de jazz.
Formidable.
Et cette scène est incroyable,
mais
dans le vide,
formidable,
sur les bidons. Et une petite fille dans une ferme, je ne vous en dis pas plus, mais là, il y a deux plans à vous déchirer le cœur, et c'est une des plus belles scènes de cinéma que j'ai vues ces derniers mois.
Et Xavier,
rapidement, c'est un très beau film de fantômes, c'est un très beau film de temps passé, c'est un très beau film sur le dilemme moral, puisqu'il y a quand même effectivement deux hommes qui ont aimé la même femme, et l'un des deux va aller chercher l'autre qui est captif. C'est un film magnifique, qui a très peu de moyens et énormément de talent. Et c'est
puis c'est émouvant de penser qu'ils ont tourné, voilà, c'est le dernier film qu'ils ont tourné ensemble. C'est Una questione privata, une question privée donc de Paolo et Vittorio Taviani. Alors, on a le temps, bien sûr, de conseiller maintenant des films. Charlotte.
Alors, un documentaire sur l'une des actrices hollywoodiennes les plus folles de ce début du siècle, Hedy Lamarr. C'est un documentaire d'Alexandra Dean, et je crois que vous parlez de la vraie fausse autobiographie.
On parlera dimanche prochain du livre qui paraît chez Séguier.
Il lui est consacré.
La folle autobiographie d'Hedy Lamarr.
Eh bien, lisez le livre et allez voir le
documentaire
qui est incroyable, et où l'on découvre donc brièvement, on va dire, les deux faces de cette femme complètement inouïe. Côté face, c'est une actrice, la plus belle femme du monde, qui a servi de modèle pour être Blanche-Neige ou Catwoman, qui était une croqueuse d'hommes, mariée 6 fois et avec une sexualité débridée. Et puis, côté pile, une scientifique incroyable qui a quand même fait des inventions complètement inouïes, et notamment un système de codage qui permettait de rendre intraçables les torpilles alliées pendant la guerre, ce qui se trouve être un peu l'ancêtre du GPS et du Wi-Fi aujourd'hui.
Je te rassure, Charlotte, nous serons très éloquents la semaine prochaine.
Formidable.
Sur ce livre,
et
on
avant de découvrir
pour parler
la série télévisée avec Diane Kruger qui
et non pas avec Jeanne Fondarme.
Non, avec Diane Kruger qui l'incarne.
Le conseil de Xavier.
C'est Retour à Bolène de Saïd Amish, qui est un film qui vraiment moi me touche, qui est 1h15. Il y a pas un pet de grâce, c'est un gamin qui retourne à Bolène, donc il a quitté la France, il travaille à Abu Dhabi si mes souvenirs sont bons, il a épousé une américaine, puis il revient dans ce petit village du sud-est français miné par évidemment la désertion sociale.
Mais c'est
par le chômage. Non, c'est une fiction, c'est une vraie fiction, mais dans un village qui est passé à l'extrême droite, il ne parle plus beaucoup à sa famille. C'est un sujet qu'on croit avoir vu de nombreuses fois et qui est là traité avec beaucoup de justesse. C'est un film très taiseux, c'est un film très prudent, c'est un film qui ne va pas du tout au thème ni à l'amalgame, mais qui regarde ce personnage qui est bouleversant, qui est interprété par Anas Elbaz. Donc, Retour à Bolène, Saïd Amish, gros coup de cœur.
Mon conseil, c'est un livre, Le Paris de François Truffaut. C'est de Philippe Lombard qui paraît chez Parigramme et qui est un livre très illustré, évidemment, qui raconte de la butte Montmartre à la Tour Eiffel, de la Nouvelle Athènes à la Nouvelle Vague et des 400 coups au dernier métro, la traversée de Paris, Truffaut et bien sûr celle d'Antoine Doinel. Si on est un peu nostalgique, je vous le conseille, c'est un autre Paris, c'est aussi un autre cinéma. Le conseil d'Éric.
C'était le même que celui de Charlotte, le film sur Hedy Lamarr, que j'ai trouvé vraiment épatant, et on voit qu'à l'époque, il y avait des actrices qui n'avaient peut-être pas un talent énorme, mais des personnalités qui déménageaient. Cette fille qui disait « ça n'est pas sorcier d'être glamour, il suffit de rester immobile et de prendre l'air idiot ». Ce qu'elle voulait faire, c'était dépenser $1 million en une journée, ce qu'elle a dû réussir, puisqu'elle a fini dans la misère. Et comme l'a dit Charlotte, elle a inventé des trucs inouïs, le saut de fréquence, le wifi, etc. Elle a couché avec la terre entière, elle s'est mariée 6 fois. Et c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, avec un flair lamentable, puisqu'elle a refusé Casablanca et Laura.
Oui.
Et après ça, vous pourrez dire comme moi, c'est un cas à la mare.
Oh là 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 là.
Très bien commencé.
Il était
très bien.
Il était bien au début.
Mais oui, mais je savais que Charlotte ne la ferait pas.
Ah non, je sais pas, osé la faire. Tout.
Dis-les-nous avant l'enregistrement, on validera.
Le titre étant d'extase au Wi-Fi, le titre du documentaire.
Je ne sais pas comment je vais poursuivre. Mais enfin, voilà, à la fin des années 70, il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, que nous aimons tous, qui s'appelle Paul Vecchiali, qui avait créé un Diagonal Film, une boîte de production, dans laquelle il permettait à des jeunes cinéastes de réaliser leur premier film. Et il se trouve que trois films qui étaient pratiquement disparus depuis pas mal d'années ressortent cette semaine. Alors, il y a Simone Barbès sous la vertu de Marie-Claude Treilloux, il y a Beau temps mais orageux en fin de journée de Gérard Frocoutaz, et il y a Les belles
avec
manières
Micheline
de Jean-Claude avec Micheline Prel et Claude Guiguet, et Les
qui
belles manières de Jean-Claude Guiguet, qui est peut-être celui qui a le mieux résisté au temps, encore que le film de Marie-Claude Treilloux est très bien aussi, et qui est pratiquement un film sur qui évoque Jean Genet entre les rapports de classe, un jeune homme qui est engagé comme domestique et qui va arriver à se venger de celle qu'il a engagé. Voilà, et c'est tout vraiment Diagonal Film, c'est vraiment, c'était un moment de liberté totale et on regrette qu'il n'y en ait pas plus aujourd'hui comme ça. Voilà.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat, Éric Nehoff pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet, à la technique, et je les remercie, Marie Le Peintre, Nadège Antonini et Alice Seyed. La réalisation a été signée Didier Lagarde. Vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque aura lieu non pas un jeudi, mais un mercredi, le mercredi 20 juin. Je vous attends nombreux à 20h au studio Sacha Guitry de la maison de Radio France pour deux émissions. L'une qui sera consacrée à la littérature, l'autre au cinéma. On parlera de livres et notamment de Hedy Lamarr dans une semaine. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.